une question dont la réponse en étonnera plusieurs. Dieu est-il trop bon pour punir le mal? La parole de Dieu va nous donner une bonne mise en garde bien claire à ce sujet, aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je trouve que l'enseignement qu'on reçoit quotidiennement dans le livre de l'Apocalypse devient de plus en plus intéressant et encourageant. Allons voir ensemble ce que ce livre de la Bible va nous dire aujourd'hui en réponse aux questions que voici. Qu'est-ce qui va arriver pendant que le monde sera en train de fêter le décès des deux témoins de l'Apocalypse? Quel est le deuxième malheur lié à la sixième trompette de l'Apocalypse? Quel est le troisième malheur qui viendra sur la terre après le son de la septième trompette? Y aura-t-il des événements heureux après le son de cette trompette? Comment est-ce que Dieu réagit devant les rois de la terre qui prétendent ébranler son pouvoir? Qu'est-ce qui nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu? Dieu est-il trop bon pour punir le mal? Est-ce qu'il va y avoir un temple dans la nouvelle Jérusalem? Demeurez des nôtres, dans sa fidélité, le Seigneur va de nouveau répondre à chacune de nos questions aujourd'hui par sa parole et bien sûr par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on va apprendre encore des choses grandes, des choses que toi-même tu vas nous enseigner par la bouche de ton serviteur. Aide-nous à bien nous concentrer, à oublier notre quotidien, à nous concentrer sur toi uniquement, sur cette parole que tu vas nous enseigner, et aide-nous à l'appliquer dans nos vies pour ta gloire. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, nous poursuivons notre étude de l'Apocalypse au chapitre 11. Un drôle de Noël. Apocalypse, chapitre 11, verset 10. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. La mort violente des deux témoins est une occasion de grande réjouissance pour tous les habitants de la terre. Le monde se laisse aller dans un festival du Mardi Gras. Newell décrit ainsi le sentiment général. Le cœur de l'homme est enfin révélé dans toute sa réalité. Une joie horrible, démente, infernale, inhumaine et macabre. Ils s'enverront des présents les uns aux autres. Même aujourd'hui, beaucoup ont complètement oublié la véritable raison de fêter Noël. Avec notre obsession de consommer des biens matériels, les cadeaux ont remplacé l'enfant Jésus depuis bien longtemps. Pendant la grande tribulation, dans un travesti démoniaque de Noël, les présents offerts serviront à célébrer la mort des deux témoins de Jésus-Christ. Le monde pensera s'être enfin débarrassé de ces troubles fêtes. Déjà, aujourd'hui, la philosophie de beaucoup se résume à ceci. Buvons et mangeons, car demain, nous mourrons. Et cela s'appliquera particulièrement durant cette période. Tout à coup, à la surprise et au désarroi de millions de téléspectateurs, quelque chose d'incroyable se produit. Apocalypse, chapitre 11, verset 11. Après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Pendant que le monde entier célébrait et jubilait à la pensée d'avoir mis à mort ces deux témoins, pendant que les caméras de télévision étaient pointées sur eux, les deux témoins remuent et se lèvent. Toutes les chaînes de télévision regretteront d'avoir pointé leurs caméras sur eux, car, comme nous l'avons vu avec les pharisiens, les chefs de ce monde n'aiment pas voir la vérité leur exploser en pleine figure. Ils feront tout pour la nier, allant même jusqu'à fermer les yeux devant l'évidence. Ces témoins font partie du groupe des élus de la grande tribulation ayant part à la première résurrection. Nous verrons cela plus en détail au 20e chapitre, versets 4 à 6. Cela fera tout un bulletin de nouvelles. J'ai parlé de caméras de télévision, mais puisque nous ne savons pas précisément quand aura lieu la grande tribulation, les médias de communication pourraient être plus sophistiqués. Peut-être quelque chose comme des hologrammes. Verset 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Évidemment, les sceptiques prétendront que cette scène est truquée et qu'un groupuscule de fanatiques religieux a pris le contrôle de toutes les chaînes de télévision. Les aveugles spirituels ont toujours été incapables de reconnaître la vérité, quelle que soit l'époque. Mais, en réalité, les deux témoins montent au ciel. Au verset 11, nous assistons à la résurrection des deux témoins. Et au verset 12, nous assistons à leur ascension. La nuée de gloire est également associée à l'ascension de Jésus-Christ au ciel et à son retour futur. Le deuxième malheur, le tremblement de terre. La sixième trompette s'est fait entendre. Nous sommes présentement dans l'intervalle entre la sixième trompette et la septième. Elles sont des trompettes de malheur, et le deuxième malheur est lié à la sixième trompette. Il s'agit d'un grand tremblement de terre. Verset 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. La liste des pertes humaines s'allonge. D'autres morts s'ajoutent à l'amoncellement de cadavres. Lors de la grande épidémie de peste bubonique qui a dévasté l'Europe au Moyen-Âge, on pouvait voir les cadavres empilés les uns sur les autres sur la grande place des villes. Pourtant, seulement un quart de la population avait été tuée par la peste. Ici, un quart de la population de la Terre a été tuée, et ensuite un autre tiers des survivants les a rejoints dans l'au-delà pour arriver à un total de la moitié de la population du monde. À ce nombre, vient se rajouter 7000 autres hommes, victimes d'un grand tremblement de terre. Assez curieusement, malgré le nombre relativement restreint de victimes, comparé aux millions qui ont précédé le tremblement de terre, les habitants de la ville rendent gloire à Dieu. Ils reconnaissent sa main puissante derrière l'événement. Il paraît opportun de rappeler ici les paroles de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 22. Et si ces jours en étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Le tremblement de terre semble se limiter à la ville de Jérusalem. Ce fut également le cas lorsque Jésus a été crucifié. Voir Matthieu, chapitre 27, versets 51 et 52. Et, lorsqu'il est ressuscité, voir Matthieu, chapitre 28, verset 2. 7000 hommes furent tués. La traduction française n'a pas traduit un mot du texte original. Une traduction littérale donnerait 7000 noms d'hommes furent tués. Cela est peut-être sans importance. L'auteur voulait alors simplement dire que la liste pouvait être répertoriée. Mais cela pourrait aussi être très important. La phrase pourrait être comprise dans le sens d'hommes de renom dans un premier cas. Il pourrait s'agir d'hommes jouissant d'une certaine renommée aux yeux du monde, peut-être même des serviteurs de l'Antéchrist. Ou, au contraire, ces 7000 hommes seraient des serviteurs fidèles à Dieu. Leur nom est connu devant Dieu. On se rappelle que, dans l'Ancien Testament, un roi, chapitre 19, verset 18, le nombre de serviteurs de Dieu qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal est précisément 7000. Pourquoi Dieu aurait-il tué ses fidèles serviteurs? On se rappelle que, pendant la grande tribulation, la désolation atteint une telle intensité que les vivants envient les morts. Revenons au texte d'Apocalypse chapitre 11, verset 14. Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Ainsi s'achève le deuxième malheur, mais les habitants de la terre ne sont pas au bout de leur peine, car le troisième malheur les frappera bientôt, mais pas immédiatement. Avant cela, la septième et dernière trompette doit retentir. Le dernier élément d'une série inaugure une nouvelle série. Le septième sceau a inauguré les trompettes, et la septième trompette inaugurera les sept personnages que nous verrons au chapitre 12 et 13 de l'Apocalypse. Le troisième malheur, lui, commence quand Satan, une de ces personnes, est jetée sur la terre. Nous verrons également les détails au chapitre 12 et 13. La septième trompette, la fin de la grande tribulation. Parmi tous ces jugements et malheurs de la grande tribulation, cette section est insérée pour encourager les croyants demeurés sur la terre et qui ont été scellés par Dieu. Car ils pourraient s'être laissés décourager par tous ces tourments, même si la durée totale de la grande tribulation est de seulement 7 ans. L'intensité de la souffrance est particulièrement forte pendant la dernière moitié de cette période. Si vous avez déjà beaucoup souffert, vous savez que 7 jours de malheur peuvent paraître une éternité. Lisons Apocalypse chapitre 11, versets 15 à 18. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles ». Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui es et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées. Ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Lorsque le septième ange fait retentir sa trompette, nous assistons à un moment crucial. Pour bien comprendre le reste du livre, nous devons bien saisir la signification de cet épisode. Dans le programme de Dieu, cet événement nous conduit chronologiquement à l'apothéose de l'entrée dans l'éternité, où le mystère de Dieu est enfin dévoilé. Il introduit une séquence se prolongeant jusqu'au chapitre 21, où l'éternité commence. Bien sûr, l'éternité n'a ni commencement ni fin, mais présentement, notre entendement humain est limité par la séquence linéaire passé, présent, futur. Mais après le jugement de Dieu, certains hommes entreront dans une éternité d'allégresse en sa compagnie, et d'autres hommes dans une éternité de tourment provoquée par son absence. L'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, nous esquisse les grands traits de plusieurs événements d'une grande importance pour Dieu. Et c'est ce même Saint-Esprit qui nous permet d'en comprendre toute la portée. Cette section se veut un résumé ou un syllabus des événements qui nous conduiront à l'entrée de l'éternité. La liste suivante nous permettra de graver ces événements dans notre mémoire. 8 événements très importants. Premièrement, après le son de la septième trompette, il y eut dans le ciel de fortes voix. Cette avalanche auditive contraste fortement avec les moments suivant l'ouverture du septième sceau où un silence était tombé dans le ciel. Car au son de la septième trompette, Dieu nous révèle son programme et dévoile son mystère. Les créatures de Dieu douées d'intelligence peuvent voir s'approcher le dénouement et elles sont impatientes d'assister à la fin inévitable du mal. Car le message de la Bible n'est pas manichéiste. Le bien et le mal ne sont pas deux forces égales et coexistantes. Le bien est éternel, mais le mal a commencé quand l'homme a désobéi à Dieu, et il se terminera par la puissance de Dieu. Cette pensée est une source de joie et d'encouragement pour tous les enfants de Dieu. Deuxièmement, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Le royaume du monde devient donc le royaume de notre Dieu et de son Christ. Il règnera au siècle des siècles, c'est-à-dire pour l'éternité. Remarquez bien l'expression « le royaume du monde ». Il s'agit d'un seul royaume et non pas de plusieurs pays ou gouvernements. En d'autres mots, tous les pays du monde sont présentement sous le contrôle de Satan. Pour lui, il n'existe aucune distinction entre les races, les religions ou les systèmes de gouvernement. Tout est sous son contrôle. J'ai déjà entendu des chrétiens dire que l'islam était la religion du diable. Et certains islamistes pensent la même chose des chrétiens. Mais Satan est actif partout dans le monde, peu importe la religion ou le gouvernement terrestre. Présentement, ils lui appartiennent tous. Les sociétés et les civilisations se vantent d'évoluer avec le temps. En réalité, elles deviennent plus méchantes de jour en jour à mesure qu'elles s'éloignent de Dieu. Cette civilisation condamnée se rapproche du jugement de Dieu. Mais un jour, elle deviendra le royaume de notre Seigneur et de son Christ. Le royaume de Satan sera détruit. Et cela ne s'accomplira pas avec des beaux discours à l'eau de rose sur l'amour et la fraternité humaine. Elle sera remise entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et il règnera sur elle. Écoutez ce passage dans le psaume 2, versets 2 et 3. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. La rébellion s'est manifestée dans toute sa force contre l'Éternel et son oint, c'est-à-dire son Messie, Jésus-Christ, lorsque celui-ci a été crucifié par les forces terrestres combinées de Rome et des pharisiens. La jeune Église comprenait bien la condition de ce monde, car elle citait ce psaume quand les persécutions se sont déclenchées contre elle, comme on peut le voir dans le livre des Actes, chapitre 4, les versets 23 à 26. Et comment l'Éternel réagit-il devant les rois de la terre qui prétendent ébranler son pouvoir? Nous le voyons au verset suivant, le psaume 2, verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Plus tard, au verset 9, il passe aux actes. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Depuis 2000 ans, Dieu se montre patient et miséricordieux envers l'humanité rebelle, et celle-ci a pris cela pour de la faiblesse, jusqu'à remettre son existence en question. Mais un jour, Dieu jugera le monde avec puissance et force. Plus tard, au 19e chapitre de l'Apocalypse, nous approfondirons les différents éléments de cette section. Le Seigneur Jésus reviendra pour mater toute rébellion humaine. La septième trompette nous rapproche de l'éternité. Troisièmement, et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Les vieillards représentent l'Église, montée au ciel avant la grande tribulation. Par son adoration, elle célèbre le retour physique de Jésus-Christ sur la terre. Dieu répond enfin à la prière de ses enfants, citée dans Matthieu chapitre 6, verset 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. » Quatrièmement, les nations se sont irritées. Nous révèle que la rébellion entêtée de l'humanité contre la volonté de Dieu se poursuivra jusqu'au bout. Jusqu'à la toute fin, le cœur borné de l'homme demeurera rebelle envers Dieu. Cette vieille nature charnelle qui nous caractérise refuse obstinément d'obéir à Dieu. Car même si nous le voulions, nous ne pourrions pas le faire par nos propres moyens. Notre nature charnelle, vendue au péché, nous en empêche. C'est pourquoi l'apôtre Paul affirme dans Romains chapitre 8, verset 7, « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Notre chair domine sur nous. La famille humaine est totalement incapable de contrôler cette vieille nature charnelle. C'est seulement par la puissance de l'Esprit de Dieu qui fortifie l'esprit du chrétien régénéré que nous pouvons parvenir à accomplir la volonté de Dieu. » Et un jour, Dieu nous débarrassera de cette misérable chair pour de bon. Cinquièmement, les nations sont irritées parce que la colère de Dieu est venue. Les nations n'avaient pas vu venir la colère de Dieu sur elles. Elles ont été nourries de cette bouillie putréfiée selon laquelle Dieu est trop bon pour punir le mal. Même aujourd'hui, la plupart des gens croient au ciel mais pas à l'enfer. Ils croient que Dieu est trop bon pour envoyer même les plus grands criminels en enfer. Il est facile de reconnaître la séduction de Satan derrière cette ignorance. Voici comment il veut que vous pensiez. Dans le fond, je me fiche de savoir si Dieu laissera entrer tout le monde dans son paradis, du moment qu'il me laisse entrer, moi. Mais je ne veux surtout pas apprendre à connaître vraiment Dieu, car pour le moment, je suis trop occupé à poursuivre mes ambitions et mes intérêts personnels. Plus tard, j'aurai le temps de penser à ce genre de choses, peut-être à la retraite. Mais la mort vient souvent sans prévenir, et Satan semble avoir convaincu beaucoup de gens que la volonté de Dieu n'est pas une priorité pour leur vie. Un autre de ces mensonges est de nous laisser croire que nous ne sommes pas si mauvais que ça, et que si jamais Dieu existe, il s'empressera de nous faire entrer dans son ciel. Sixièmement, le temps est venu de juger les morts. Nous verrons cet élément plus en détail au 20e chapitre, durant le jugement du grand trône blanc qui condamnera définitivement les âmes perdues. Septièmement, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Les chrétiens sont déjà tous montés vers Dieu et ils ont déjà été récompensés, comme l'indiquent les couronnes que nous avons observées sur la tête des vieillards. La récompense dont il est ici question est celle réservée aux élus de l'Ancien Testament et à ceux de la Grande Tribulation. Ils ont également droit à la première résurrection, mais plus tard, ils reçoivent leur récompense quand Jésus vient établir son royaume. Huitièmement, et d'exterminer ceux qui détruisent la terre. Cela s'applique non seulement aux démons, mais aussi aux hommes, car l'homme, laissé à lui-même, détruit et tue. Quant à Satan, l'apôtre Pierre nous avertit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. » Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'ouverture du temple. Le prochain verset nous conduit à la porte de l'éternité. Lisons Apocalypse chapitre 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Quand nous reverrons l'Église de Dieu, ce sera dans la Nouvelle Jérusalem, et on n'y verra aucun temple. Ici, nous voyons un temple dans le ciel. Le sanctuaire construit par Moïse était une humble réplique terrestre de ce temple, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il est question ici de l'arche de l'alliance et non pas de la croix de Jésus-Christ. C'est donc clairement Israël qui est visé ici. La prise des mesures du temple sur la terre et l'ouverture du temple dans le ciel impliquent de plus que cette section s'adresse au peuple d'Israël. Le prochain chapitre nous le confirmera. L'arche de l'Alliance nous rappelle que Dieu conclut et honore son alliance avec l'homme. Il tiendra les promesses faites en concluant cette alliance avec Israël. Et nous verrons aussi qu'il scellera une nouvelle alliance avec eux. Car à ce moment, la loi sera écrite dans leur cœur au lieu d'être écrite sur des tablettes de pierre. Cette promesse a été faite par le prophète Jérémie, chapitre 31, versets 31 et 34, ainsi que dans le Nouveau Testament, à l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, versets 8 à 13. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Tout cela nous parle encore du jugement à venir. Cher ami, peux-tu discerner le langage de Dieu? Dieu te parle présentement, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Cette fois-ci, il te parle des jugements à venir, il t'avise, il t'avertit. Tu peux fuir ces choses, ou tu peux les éviter, c'est-à-dire en te réfugiant maintenant dans la personne de Jésus-Christ, par la foi. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. En lisant Apocalypse, chapitre 12, les versets 1 à 3. À vous tous, je vous souhaite une bonne et agréable lecture.
Merci, Régent. Tu as mentionné un fait qui est tellement évident pour un enfant de Dieu qui a reçu l'Esprit de Dieu. Parce que par l'Esprit, on peut voir encore plus clairement qu'il est vrai. Et ce fait, c'est que notre vieille nature charnelle refuse obstinément d'obéir à Dieu. Mes amis, c'est tellement vrai. Sans l'Esprit de Dieu qui vient faire sa demeure en nous, quand on devient des enfants de Dieu, on serait tous incapables de contrôler notre vieille nature charnelle. Mais gloire à Dieu, parce que par la puissance de son Esprit, qui fortifie l'esprit du chrétien régénéré, on peut parvenir à accomplir la volonté de Dieu. Je n'oublierai jamais le jour où l'Esprit de Dieu est venu habiter en moi suite à ma conversion. Soudain, moi qui avais vécu dans la débauche pendant des années, je savais que c'était terminé entre mon amant et moi, sans que personne ne me le dise, uniquement l'esprit de vérité qui vivait en moi. Et le lendemain, j'ai dit à cet amant qu'il n'était plus mon amant. Aussi, j'ai appelé la personne qui me fournissait de la drogue pour lui dire que c'était terminé et que je ne l'appellerais plus jamais. Et j'ai dit à la personne qui me trouvait du travail dans les cabarets que je ne me sentais plus capable d'aller encourager les gens à faire des abus d'alcool en les divertissant par des chansons qui étaient vides de sens. Et en parlant de chansons, j'ai vécu ce qui est écrit dans le psaume 96, verset 1, qui nous dit de chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Et je n'avais même pas encore lu ce verset. Tout ça, mes amis, parce que l'Esprit de Dieu vivait en moi et qu'il me disposait à faire le bien plutôt que le mal. Et il n'y a aucune gloire pour moi dans tout ça. Et puisque je suis loin d'en être arrivé à la perfection et qu'il m'arrive encore de pécher, encore là, c'est l'Esprit de Dieu qui m'amène à voir mon péché et à me repentir. Quelle puissance vit en nous, chers amis, nous qui sommes des croyants. Quel cadeau le Seigneur nous a fait au moment où il nous a donné le cadeau ultime, celui du pardon de nos péchés et de la vie éternelle, simplement parce qu'on a placé notre confiance en Jésus seul pour recevoir ce cadeau. Et toi, mon ami, as-tu reçu ce cadeau? Crois-tu en Jésus? Crois-tu qu'il est Dieu et qu'il a pris un corps comme le nôtre afin de venir payer notre rançon, afin de nous faire sortir de notre prison de péché? Oui, mon ami. Il a payé notre dette en entier quand il est mort sur cette croix. Ses bras étaient grands ouverts et des clous étaient dans ses mains. Mais ce ne sont pas les clous qu'il retenait là, mon ami. C'est son amour pour toi, son amour pour moi. Et le troisième jour, il est ressuscité. Maintenant, Jésus est vivant et ses bras sont encore grands ouverts pour t'accueillir si tu crois tout simplement en lui. Si c'est le cas, mon ami, repens-toi. La repentance, c'est un changement de cœur à l'égard du péché qui fait qu'on veut absolument s'en détourner. Alors demande à Jésus maintenant de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Tu vas avoir cette vie éternelle, tu vas pouvoir l'avoir dès maintenant. Tu vas pouvoir dire « J'ai la vie éternelle ». Tu vas commencer à marcher dans cette vie éternelle. Tu vas marcher dans la présence de Dieu et son Esprit Saint va te garder loin du péché. Il va t'enseigner sa parole et tu vas passer l'éternité avec ce Dieu d'éternité.
Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer.
Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que, toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre, aussi simplement que ça.
Nous avons des gens disponibles en tout temps.
Ils vont parler avec toi. Ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions.
Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter.
Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi.
Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée.
Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux.
Pour nous rejoindre, au téléphone
1-877-LESPOIR 1-877-537-7647 ou à notre adresse courriel
www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.